Docteur Volant, bonjour.
Bonjour. En fait, la boucle est complétée, mais je suis en train de faire les 16 kilomètres entre Québec et Wendake.
Ah, vous êtes
Je suis
en pleine marche,
en
docteur
pleine
Volant.
marche. Oui, c'est frais, puis j'ai un peu froid aux doigts, mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous parler quand même.
Donc, pour être bien certaine de comprendre, c'était ce matin, je pense, les plaines d'Abraham, c'est bien ça?
Oui, on a commencé à 9 h pour permettre à des gens de se joindre à nous. Parce que la marche entre Wendake et Québec, c'était plus difficile au niveau logistique de pouvoir avoir 100, 200, 300 personnes avec nous.
Oui.
Et ça permettait à des gens de pouvoir venir juste nous supporter un kilomètre, 2 km, où il y a près 8, 9, 10 personnes qui sont venues en plus de notre groupe de marche de 17 personnes jusqu'à Wendake.
Cette marche-là, vous l'avez débutée en 2010, docteur Volant, et à quel moment? Ça fait quelques jours, quelques semaines, je pense, que vous avez décidé de la reprendre.
C'était déjà prévu depuis plusieurs mois, puis c'était prévu pour la fin mai, mais j'ai un événement heureux qui arrive le 27 mai, la naissance de ma petite Béatrice. Donc, on a décidé de l'avancer d'un mois, mais c'était déjà prévu depuis le mois de décembre. Donc, c'est pas une coïncidence. Et on a décidé de marcher de Kakuna jusqu'à Wendake, 250 km, pour permettre encore de pouvoir redonner le message aux jeunes de persévérer, de rêver, de persévérer, de jamais abandonner leurs rêves et développer des saines habitudes de vie, et aussi un message au gouvernement, puis aussi aux communautés, l'importance de favoriser les conditions idéales pour permettre aux jeunes de pouvoir développer leur plein potentiel et leur talent.
Oui. Cette marche, elle se nomme Innu Mishkinu. Est-ce que je le prononce comme il faut, docteur Volant?
Exactement, Meshkenot veut dire chemin, et nous, être humain.
Oui. Et la genèse s'est passée en France sur le chemin de Compostelle.
Oui, c'est un vision, un rêve que j'ai fait la dernière journée de Compostelle en 2008. Et quand je suis revenu au Canada, bon, j'ai dit peut-être que je pourrais faire ça quand j'aurai 65, 70 ans. Mais à force de voir des rapports sur le taux de suicide, le taux de diabète, le taux de détresse psychologique des jeunes et des moins jeunes, le taux de violence dans les communautés, le taux de criminalité, j'ai dit, bon, je pense qu'il est les 40 ans qu'on le fasse maintenant,
Oui.
et d'attendre dans 25 ans, peut-être des milliers d'enfants qui auront entendu mon message seraient déjà décédés, morts ou dans des situations à risque. Puis, donc, souvent, il y a des cyclistes qui passent à côté de nous, qui sont pas très contents qu'on marche. Et donc, j'ai décidé d'entreprendre cette marche-là en 2010, même si c'était pas vraiment un temps idéal pour le faire, parce que je travaille, je suis chirurgien, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités professionnelles et académiques. Et j'ai entrepris parce que c'était 40 ans de le faire. Et depuis ce temps-là, j'ai marché 5 400 km.
Donc, 2010, on est en 2016, mais en même temps, il y a quelques semaines, on entendait parler de cette vague de suicide, tentative de suicide du côté d'Attawapiskat, qui est en Ontario, dans le nord de l'Ontario. Est-ce que pour vous, cette nouvelle, ce constat, c'est un échec ou plutôt une motivation à continuer à transmettre votre message?
Je pense que c'est une motivation supplémentaire pour continuer à propager le message et aussi essayer de convaincre les gens d'être des ambassadeurs de ce message-là. Je ne peux pas seul changer les choses, mais si tout le monde se convainc qu'on peut donner de l'espoir en donnant les moyens à nos jeunes de pouvoir se développer leur talent, leur potentiel. Et actuellement, nous avons la population autochtone. La moitié de la population autochtone a moins de 20 ans. Donc, c'est une richesse démographique. Si on peut leur donner les outils pour se développer, ou ça peut devenir une bombe démographique, ces jeunes-là pourraient juste augmenter le nombre de cités sociaux, de personnes qui tombent dans la victimisation, le
Oui.
nombre de toxicomanes, le nombre de décrocheurs scolaires. Donc, il est temps d'agir. Et si on ne le fait pas de façon concertée avec les gens des communautés, les leaders des communautés et le gouvernement, ben on va se ramasser avec une problématique beaucoup plus importante dans 10-15 ans.
Oui. Il y a un volet très important à votre main, je trouve, c'est ce volet de l'identité culturelle. Comment on fait pour sensibiliser les jeunes autochtones ou peut-être les sensibiliser, leur parler de leur identité culturelle et de leur montrer à quel point c'est important de sentir ce lien d'appartenance?
Bien, je leur parle beaucoup de mon expérience personnelle parce que j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai été adopté quand j'étais jeune et j'ai vécu dans la forêt avec mes grands-parents de façon très traditionnelle. Je ne parlais pas français à l'âge de 6 ans ou 7 ans. Mm-hmm. Et j'habitais plus dans une tente que dans une maison à l'âge de 5 ans. Et je leur donne cette image-là, ce message-là que je suis fier d'être autochtone. Et c'est ça qui m'a permis de franchir les obstacles de ma vie.
Oui.
Et l'autre chose aussi, c'est que nos grands-parents, je me rends compte à travers mes marches en hiver, au printemps ou à l'été ou à l'automne, ce qu'ils ont traversé le GT de Chefferville à Coudjouac l'hiver passé avec une vingtaine de personnes, avec un traîneau. Et je peux dire, ce que je faisais, c'était peut-être 15% de ce que mes ancêtres faisaient avant.
Oui.
Et j'ai trouvé ça très, très dur, malgré que je sois un athlète. Et donc, j'ai encore plus d'admiration, de fierté pour ces gens-là qui étaient des gens courageux, braves, résilients. Et leur courage nous a permis, la détermination, courage, détermination, nous a permis d'être ici encore aujourd'hui. Et je dis ça aux jeunes, soyez fiers de vos grands-parents. Et prenez exemple du courage qu'ils avaient pour franchir les étapes de vos vies.
Oui. Il y a énormément de détresse dans les communautés autochtones, bon, notamment chez les jeunes, docteur Volant. Comment on peut l'expliquer, cette détresse-là? Vous en avez rencontré des jeunes, des gens, des familles lors de vos marches dans les communautés autochtones. Pour nous, parfois, ça peut être difficile à saisir et j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu un portrait de cette détresse-là.
Bien, selon les dernières statistiques qui ont été publiées par la Commission de la santé des Premières Nations de Québec, la Mandor, il y a de 20 à 30 % des adultes autochtones qui auraient pensé à mettre fin à leur jour. Ouais. Donc, c'est quatre fois plus élevé que la population canadienne. Et chez les tentatives de suicide qui ont réussi, le taux est de 6 à 7 fois plus élevé en milieu autochtone et de 15 à 20 fois plus élevé chez les Inuits du Grand Nord. Donc, c'est un phénomène qui est perdu depuis plusieurs années. Mm. En fait, les statistiques de cette année sont identiques à celles qu'il y a 10 ans. Donc, il y a une variation, mais il n'y a pas de diminution de ce phénomène-là. Et on sait que les facteurs protecteurs, c'est essentiellement la réappropriation de l'aspect culturel, la réappropriation de l'identité culturelle, mm-hmm. et deuxièmement, l'éducation. Donc, pour vraiment, et ça, c'est l'étude de psychologue, je ne me rappelle plus du nom de l'étude, qui est publiée il y a une dizaine d'années, mais qui démontrait que les deux facteurs principaux de protection étaient l'identité culturelle et l'éducation.
Oui.
Et je pense qu'il faut investir nos énergies, pas juste l'argent, mais nos énergies au niveau de la réappropriation de l'identité culturelle et aussi sur l'éducation pour donner les compétences, les outils à nos jeunes de pouvoir affronter le monde et s'enrichir.
Oui. Vous êtes le premier, et je pense que c'est important de le dire, le premier autochtone québécois à finir ses études en chirurgie. Vous avez été diplômé en 1994. Avez-vous l'impression que cette éducation auquel vous avez eu accès vous a sauvé un petit peu, docteur Volant?
Bien, c'est ça m'a donné des outils pour affronter le monde moderne. Mais l'éducation que j'ai eue de mes grands-parents m'a beaucoup aidé. Puis je me sers souvent je me remémore souvent les histoires de mes grands-parents pour me redonner de la fierté et du courage.
Ouais.
Et ça me permet de franchir les obstacles plus facilement. Ça me permet de parler aux jeunes autochtones en disant, rappelez-vous de vos ancêtres. Vos ancêtres, c'est des gens courageux. Puis prenez exemple sur eux. Et de vivre, survivre et de vivre, c'est une façon d'honorer leur mémoire. Parce qu'ils se sont sacrifiés pour nous. Ils ont souffert pour nous. Ils ont eu faim pour nous. Et ils ont transmis la richesse de notre culture, de notre langue, malgré les pensionnats, malgré les colonisations, malgré la loi sur les Indiens, qui est une loi raciste, ethnocide, ils sont parvenus à nous transmettre cette culture-là. Et on doit les honorer en poursuivant cette fierté-là de la culture et la communiquer à nos enfants et aussi au restant du monde, parce que nous pouvons enrichir le peuple non autochtone de notre coutume, de nos coutumes, de nos langues. Et je pense que nos jeunes pourront être un jour l'ambassadeur de cette fierté-là.
Oui. En terminant, Dr. Volant, est-ce que les leaders autochtones et bon, le gouvernement Trudeau est sensible à votre cause? Est-ce que vous sentez un appui?
Le gouvernement Trudeau, je pense que semble investir de façon significative, peut-être insuffisante encore à mon goût au niveau des Autochtones. Le 8 milliards sur 5 ans peinerait à peine à couvrir le manque au niveau d'éducation. Donc, juste un aspect de la santé des Premières Nations, il manque quand même 60% des communautés autochtones qui n'ont pas accès à de l'eau. Il manque 30 000 maisons dans les communautés autochtones. Il y en a 60% aussi qui sont extrêmement contaminés par des moisissures et d'autres contaminants. Il y a tous les problèmes de leviers socio-économiques qui sont déficients. Donc, il y a encore beaucoup d'investissements à faire parce que c'est beau investir sur l'éducation, mais il faut aussi investir sur les déterminants de la santé, avoir de l'eau, avoir une maison, avoir un toit et aussi développer une sécurité dans nos communautés. Il y a un rôle important de nos chefs, de nos communautés aussi dans ce processus-là. Donc, ce ne sera pas juste l'extérieur qui devra nous aider, mais il faut que ça vienne à l'intérieur avec de l'aide des différents paliers de gouvernement provinciaux et fédéraux.
Oui. Pour encadrer nos jeunes et savoir les inspirer. Et comme vous le disiez si bien, d'abord et avant tout, à l'éducation. Maintenant, pour appuyer votre marche, on peut aller à inu-meshkinu.com. On peut vous suivre, à savoir, vous êtes rendu où, vous suivre en temps réel. Docteur Volant, cette marche, vous prévoyez la terminer quand?
Cette marche-ci, je la termine dans 2,5 km.
Alors, c'est tout bientôt.
C'est dans à peu près 30 minutes. Puis, rencontre avec les étudiants de l'école. Mm-hmm. Puis, je reprendrai la marche l'année prochaine pour finir sur Montréal.
Ouais. Okay.
Donc, j'invite les gens de Montréal de venir marcher avec nous nombreux l'été prochain. Une date à terminer avec le maire Coderre, en effet.
Mm-hmm.
Puis, ils peuvent aussi nous encourager sur nos sites, sur les réseaux sociaux. Et on peut aussi donner au niveau d'Inu-Meshkinu à travers la Fondation de l'Université du Québec à Chicoutimi pour permettre d'organiser ces marches-là et de soutenir les gens qui viennent marcher avec nous. Il y a des jeunes avec qui j'ai marché dont la vie a changé, qui sont retournés à l'école, qui ont abandonné la drogue, l'alcool, des gens qui ont préféré la vie à la mort, des gens qui sont devenus maintenant des leaders dans leur communauté. Donc, il y a des effets positifs et j'espère faire beaucoup d'émules dans les prochaines années.
Oui. Est-ce que j'entends, Dr. Volant, vous avez espoir en l'avenir, plus que de l'inquiétude ou de l'amertume? C'est ce que j'entends.
J'ai beaucoup d'espoir, mais je pense qu'il faut agir maintenant parce qu'il est plus moins une.
Oui.
Il est minuit plus une. Mais c'est encore le temps d'agir. Puis, avec l'aide des communautés, des leaders, des différents paliers de gouvernement provinciaux, fédéraux, on pourra trouver une solution pour que tous les jeunes puissent se développer pleinement et contribuer à l'avenir de notre pays, à l'avenir de nos enfants. J'en suis très, très, très positif. Je ne le verrai peut-être pas de mon vivant, mais j'espère que mes enfants, mes petits-enfants le verront.
Que la petite Béatrice pourra le voir, Dr. Volant. En tout cas, vous en êtes tout un leader. Moi, j'ai entendu dire que quand vous arrivez dans les communautés autochtones, vous êtes accueilli comme une rock star, Dr. Stanley Volant. Je rappelle, vous êtes chirurgien, également instigateur de cette marche chez nous, mais ce qui est nous, professeur et conférencier. On vous laisse aller vous réchauffer les doigts, Dr. Volant, et une très bonne marche à vous et à ceux qui vous accompagnent.
Et merci beaucoup, puis bonne journée. Et en Inu, on dit Tchenskemetun, c'est-à-dire je te donne une terre à manger ou merci, tout simplement. Et Niant, au revoir.
Au revoir, Dr. Volant.